On dialogue. Ici Jean-Philippe Trottier, nous poursuivons avec En Dialogue. Je m'entretiens avec Paul Labonne, directeur général du Musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Il nous parle de la réouverture de l'institution et des expositions qui s'y trouvent. Une d'elles, temporaire, est consacrée à Victor Bourgeot, grand architecte montréalais qui a contribué à façonner la ville en y érigeant de grands ensembles conventuels tels que l'Hôtel-Dieu pour les Hospitalières de Saint-Joseph ou le couvent des Sœurs Grises. Paul Labonne, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Deux petits mots sur vous. Je rappelle que vous êtes directeur général du Musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Êtes-vous architecte de formation? Êtes-vous muséologue, muséographe? Qu'êtes-vous?
Historien et muséologue.
D'accord.
Alors, je m'amuse autant en muséologie qu'en histoire, et je suis bien servi au Musée des Hospitalières, puisque le musée aborde la Fondation de Montréal, évidemment, avec Jeanne Mance, la cofondatrice de Montréal, et fondatrice de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Alors, on a la chance, donc, de pouvoir parcourir toutes les périodes historiques, et vous savez que l'Hôtel-Dieu est la seule institution qui est là depuis 1642, depuis les tout au début. Donc, l'Hôtel-Dieu a vu, ma foi, tout ce qui est arrivé à Montréal, l'épidémie, anniversaire et tout ça. Donc, l'Hôtel-Dieu est un témoin de la ville depuis les tout débuts grâce à sa fondatrice, Jeanne Mance.
Une ville, précisons-le, qui a commencé, qui a connu ses 21 premières années comme projet mystique et non pas comme comptoir commercial. Ça, c'est, je pense que Jeanne Mance, qui est la fondatrice, s'inscrit dans ce genre de vision mystique poussée par la spiritualité française du XVIIe siècle, non?
Oui, ben tout à fait. Ben il faut comprendre que Luther, Calvin sont passés juste avant ce qu'on a appelé la réforme protestante, et les catholiques vont lancer, j'oserais dire, une contre-offensive qui a été surnommée la contre-réforme. Et il y a énormément de congrégations religieuses qui sont nées durant cette période-là. Et il y a des laïcs qu'on a appelés les dévots, qui n'étaient pas nécessairement religieux, mais qui avaient des aspirations chrétiennes très très enracinées, et ce sont souvent ces laïcs dévots qui vont prêter main forte aux communautés religieuses, aux congrégations, et c'est le cas par exemple pour la Fondation de Montréal avec Maisonneuve ou Jeanne Mance. Donc ce sont des laïcs. Même Jérôme Leroyer de la Dauversière, qui est le grand penseur, si on veut, qui organise de France donc la mission de Montréal. Et à l'époque, il est le procureur de la Société Notre-Dame qui va être, disons, les associés qui vont mettre de l'avant cette mission-là, donc l'organiser comme telle. Et c'est eux qui vont donner le nom de la mission Ville-Marie. Donc, en février 1642, pendant que Jeanne Mance et Maisonneuve sont à Québec pour passer l'hiver, en février 1642, il y a une messe qui est célébrée, entre autres, à Notre-Dame de Paris, et les associés vont donc choisir comme nom Ville-Marie pour Montréal. Mais il faut savoir que Champlain, qui était venu en 1603 et en 1611, avait déjà nommé la ville Montréal. La première fois que le nom Montréal apparaît sur la carte, c'est une carte de Champlain en 1612. Alors, le nom Ville-Marie arrive un peu plus tard, lorsque les associés de la Société Notre-Dame vont l'appeler ainsi en février 1642. Alors, c'est intéressant de voir qu'il y a quand même, au niveau de la toponymie, une évolution, que dès le départ, on nomme Montréal pour la montagne, le Mont-Royal. Donc, c'est la même chose. Montréal ou Mont-Royal, c'est la même chose. Donc, quand Champlain vient, il donne le nom.
Alors que Ville-Marie, c'est la ville en honneur de la Vierge Marie, forcément. Vous avez cité, Paul Labonne, le nom de Jeanne Mance, moi aussi d'ailleurs. C'est vraiment le pivot, en tout cas sanitaire, si j'ose dire, et peut-être même pédagogique, de cette petite colonie mystique qui voit le jour en 1642, qui ensuite va être transférée au pouvoir royal en 1663, pendant 21 ans et même plus tard. Ensuite, Jeanne Mance va s'activer, mais comme une folle, littéralement, parce que les conditions de vie sont terribles, etc. C'est une femme qui vient de quel milieu, à peu près, juste pour voir un peu quelle empreinte elle a pu donner à l'Hôtel Dieu.
Son papa était ce qu'on appelle un homme de robe, là, un noble de robe, donc il gère les impôts à Langres. C'est une femme qui est quand même très bien réseautée. Son cousin est quand même très proche de la monarchie. Alors, elle évolue quand même dans un cercle assez important, tant au niveau religieux qu'au niveau de la cour du roi. Donc, souvent, des cousins d'Olbeau vont lui ouvrir des portes. Même chose au niveau des alliances familiales et tout ça. Donc, c'est quand même intéressant de voir que à l'époque, elle est quand même bien réseautée. Comme son papa était, gérait les impôts et tout, on pense qu'il a pu quand même bien l'aiguiller au niveau financier. Elle n'arrive pas démunie à Montréal. Ce qu'on comprend de la chose aussi, c'est que Paul de Chomédé de Maisonneuve s'occupe plus de ce qu'on appellerait des choses qui ont rapport à l'extérieur, donc la guerre, tout ce qui est militaire et le réseau plus formel, alors que Jeanne Mance a plus un rôle d'intendance. Alors, c'est plus elle qui gère au quotidien la nouvelle colonie qui est autonome à l'époque. Et vous faites bien de le mentionner, en 1663, c'est que Louis XIV va abolir le système de colonies comme il était à l'époque où Montréal était une colonie autonome pour vraiment intégrer Montréal dans disons, l'administration générale de la Nouvelle-France. Alors, c'est vrai que la colonie de Montréal a joué, a eu une grande autonomie là, jusqu'en 1663, et la Société Notre-Dame périclite, notamment avec le déclin de la santé de Jérôme Leroyer, qui est le procureur. Et Jeanne Mance va se rendre en France pour justement approcher les Sulpiciens pour que ce soit eux qui soient seigneurs de l'île. Et en 1663, c'est non seulement l'intégration de la colonie de Montréal dans un ensemble plus large avec, la Nouvelle-France, mais c'est également un nouveau seigneur. Donc, les Sulpiciens deviennent seigneurs de l'île en 1663. Et en tant que seigneur, il s'occupe également de tout ce qui est spirituel, ce qui était assez rare à l'époque parce que les seigneurs n'étaient pas des seigneurs religieux. C'est arrivé à quelques reprises. Là, je pense au séminaire de Québec qui était seigneur de l'île Jésus à Laval, mais je veux dire, c'était quand même pas fréquent. Alors, des fois, ça peut causer des tensions avec l'évêque, ce qui va être le cas à Montréal. En 1821, Monseigneur Lartigue se voit montrer la porte par les Sulpiciens. Alors, disons qu'il y a eu des tensions du fait que, justement, les Sulpiciens étaient à la fois seigneurs temporels et spirituels. Ils avaient demandé à être les seuls à avoir le droit de former des paroisses à Montréal. Donc, l'évêque se voit un petit peu couper l'herbe sous le pied à l'époque, mais c'est une autre histoire.
Il va être remplacé par Mgr Bourget pour la plus grande fortune de l'ultramontanisme et de la vie religieuse du Canada français. Paul Labonne, directeur général du musée des Hospitalières de l'Hôtel Dieu de Montréal. Justement, donc, l'Hôtel Dieu de Montréal est fondé quand? Connaît-il une grande fortune? Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il brûle plusieurs fois? Enfin, c'est Jeanne Mance qui est la main maîtresse derrière tout ça.
Tout à fait. Au fond, Jeanne Mance le fonde en 1642. Au tout début, à l'été 1642, c'est un petit dispensaire et rapidement, il y a des crues même en décembre 1642 et ça va amener Jeanne Mance et Maisonneuve à vouloir faire l'Hôtel Dieu à l'extérieur du fort en raison des crues. Mm-hmm. Alors, Alors, ils vont le faire un petit peu à l'intérieur des terres, en fait, sur la rue Saint-Paul, qui n'existe pas, évidemment, à l'époque. Et Jeanne Mance, donc, va administrer l'hôpital jusqu'à sa mort. Et on le sait parce qu'on a trouvé récemment des actes notariés où les coureurs des bois qui étaient pris à donner de l'alcool ou à vendre de l'alcool aux Amérindiens payaient des amendes et c'est l'Hôtel Dieu qui récupérait ça. Et on a le nom de Jeanne Mance et c'est toujours l'administratrice Jeanne Mance. Alors, on sait qu'elle est restée administratrice là, jusqu'à sa mort. Les sœurs, les trois premières qui arrivent, les hospitalières qui partent de la Flèche, arrivent en octobre, à l'automne, donc en octobre 1659. Oui. Elles sont trois et elles viennent prêter main forte à Jeanne Mance, qui avait eu des problèmes avec son bras. Elle était tombée, puis elle s'était cassée un bras. Et en 1659, donc, trois sœurs viennent lui donner un coup de main. Mais à l'époque, les sœurs sont pas encore cloîtrées, puis vous comprenez que, bon, l'hôpital, ici, est tout petit, là. C'est vraiment la maison de Jeanne Mance avec une petite chapelle. Et les sœurs, au fil du temps, bon, d'abord, vont devenir cloîtrées comme telles, et elles vont construire un monastère pour pouvoir vivre leur foi et vivre selon les règles de Saint-Augustin aussi. Donc, il faut comprendre qu'au tout début, c'est la maison de Jeanne qui sert d'hôpital. Puis après, donc, les choses deviennent se structurent et il y a des incendies, vous faites bien de le dire, et en 1695, l'hôpital est vraiment ravagé et Jeanne avait donné son cœur et le cœur était exposé dans la chapelle. Donc, il brûle en 1695 et ça explique pourquoi on a perdu beaucoup de documents. Madame de Bullion, qui était la grande mécène de Jeanne Mance pour l'Hôtel Dieu, lui avait offert également du mobilier liturgique, hôtel et autres. Donc, on a perdu malheureusement le mobilier qui avait été donné par la bienfaitrice Madame de Bullion. Alors, 1695, c'est vraiment une année, j'oserais dire, maudite, dans le sens où on perd non seulement l'Hôtel Dieu, mais les archives de Jeanne Mance, beaucoup d'objets et tout ça. Et c'est reconstruit. Et il y aura d'autres incendies, notamment un incendie allumé par Angélique, qui était une esclave, là. Alors, qui a fait l'objet d'exposition au Centre d'histoire de Montréal, là, qui est un cas maintenant bien connu grâce à eux. Mm-hmm. Alors, voilà.
Alors, Paul Labonne, depuis quand est-ce que l'Hôtel Dieu est sur la rue des Pins avec le musée des hospitalières dont vous êtes le directeur et dont on va parler dans quelques secondes? Ça fait quoi, 1860 et des poussières, non, ou pas?
Oui, exactement. En fait, le projet commence en 1859 et l'idée, c'est que ils vont par morceaux parce que ils laissent l'hôpital quand même fonctionner sur la rue Saint-Paul pendant qu'ils construisent sur l'avenue des Pins. Et en fait, il faut savoir que c'est les Sulpiciens qui font pression sur les sœurs pour ériger un orphelinat. Donc, on est vraiment dans des vagues migratoires très importantes britanniques, soit d'Angleterre ou d'Irlande. Et donc, il y a énormément d'immigrants d'origine britannique qui arrivent à partir des années 1820-1830. Et il y a des orphelins, parce que les parents peuvent décéder sur le navire en raison, entre autres, typhus. Scorbut moins. Le scorbut, c'est la vitamine C. Donc ça, c'était plus Jacques Cartier et les premiers qui, on savait pas qu'il manquait de la vitamine C. Mais après, c'est la variole, le choléra et le typhus. Alors, ça, c'est pas drôle. Et à l'époque, il n'y a pas d'antibiotiques. Quoique, dans certains cas, c'est vraiment des virus. Donc, c'est pas tout à fait, des antibiotiques. Mais au moins, avec des vaccins, ça aurait pu beaucoup aider.
Mais toujours petit coup d'œil à l'actualité, oui.
Exactement. Mais toujours est-il que les Sulpiciens font pression sur les sœurs pour avoir un orphelinat. Les sœurs ne peuvent pas le faire dans Vieux-Montréal parce qu'ils n'ont plus de place. La rue Saint-Paul se développe beaucoup et les commerçants, ils ne sont pas contents d'avoir des communautés religieuses sur Saint-Paul parce que ça bloque l'activité commerciale. Donc, c'est ça. L'évêque leur dit, mais pourquoi vous n'allez pas sur votre terre que vous avez déjà, qui va de Sherbrooke à Jean-Talon? La terre ministère de la Providence. Et donc, l'évêque les convainc, mais les Sulpiciens vont quand même payer une partie de la nouvelle construction, parce que c'est eux qui veulent l'orphelinat. Donc, on construit d'abord l'orphelinat, la sacristie, la chapelle, et après, on va construire l'hôpital. Donc, la première chose qu'on construit, c'est pas l'hôpital, c'est l'orphelinat. Et les sœurs dans le Vieux-Montréal racontent que à un moment donné, donc, les ouvriers sont en train de défaire l'Hôtel-Dieu de la rue Saint-Paul. Ils disent, ben là, ils sont rendus dans nos chambres, donc ils sont en train d'enlever les murs, les planches, et donc les sœurs qui sont cloîtrées, là, ils se retrouvent un peu à la rue. Donc, elles se plaignent, puis on va les amener sur le site de l'Hôtel-Dieu.
Bon, la bonne, je vais devoir vous interrompre un peu parce que le temps file et on va quand même parler du musée. Je suis désolé, c'est passionnant, mais à un moment donné, on va devoir mettre la publicité. Le musée des hospitalières dont vous êtes le directeur, Paul Labonne, c'est un vieux musée ou pas? Parce qu'il vient de rouvrir en plus, donc...
Oui, il a été fondé par les hospitalières en 1992, d'accord, lors du 350e anniversaire de Montréal. Oui. Et puis, vous êtes au courant que les sœurs ont vendu à la ville de Montréal la partie monastère, la chapelle et la bâtisse du musée. Mm-hmm. Le musée est géré par un organisme sans but lucratif. Et maintenant, nous sommes complètement indépendants de la communauté, parce que jadis, c'était les sœurs qui le géraient, mais depuis le 1er mai 2019, donc nous volons de nos propres ailes, tant au niveau de la gouvernance que du financement. Donc, le musée est financé par le ministère de la Culture à travers le PAFIM et par la Ville de Montréal qui nous octroie une subvention annuelle. Et bon, évidemment, il y a la billetterie et autre chose, mais grosso modo, juste vous dire, on est autonome et les sœurs sont propriétaires de leur collection, 22 000 objets, mais le musée gère la collection et la met en valeur. Donc, c'est notre gestionnaire des collections, notre employé qui gère les espaces de réserve, qui dorlote la collection, si j'ose dire.
Et donc, il y a beaucoup de choses à voir, j'imagine, au musée, non?
Oui, tout à fait. Puis, il y a une volonté délibérée de la part de l'équipe du musée d'intégrer de plus en plus d'œuvres. Et il y a une sainte famille qui est magnifique, qu'on vient d'installer l'année passée, qui se trouvait du côté du monastère. Les sœurs l'avaient donc dans leur ancien cœur. Et là, comme elles sont déménagées dans un espace plus restreint sur le complexe, mais sur l'avenue des Pins, elles ont dû abandonner leur tableau et elles nous ont demandé si on voulait l'installer. Mais c'est une œuvre de 1706 à peu près. Et c'est très important parce que cette œuvre-là, de la Sainte Famille, nous ramène au tout début quand Montréal a été consacré à la Sainte Famille. Donc, la Sainte Famille, c'est les origines de Montréal. La Société Notre-Dame a dédié... c'est une œuvre magnifique, si vous avez la chance de venir la voir. Et là, on est en train de travailler pour mettre un nouveau volet de l'expo permanente sur le 20e siècle avec les hospitalières et les infirmières. Donc, on espère pouvoir inaugurer ça au printemps.
Et entre-temps, docteur, vous êtes au 201 Avenue des Pins Ouest à Montréal et vous venez d'ouvrir. Alors, évidemment, le gouvernement a donné son feu vert au musée. Et donc, vous n'avez pas attendu. Vous avez fait ni une ni deux. Et vous avez ouvert, je pense, autour du 10 février dernier avec une exposition temporaire, non?
Oui, c'est l'expo Victor Bourgeot. Et je reprends la balle au bon. Tantôt, vous avez avec justesse parlé de Monseigneur Bourget. Oui. Et au fond, l'exposition parle de cette équipe fantastique qui a été Monseigneur Bourget et son architecte Victor Bourgeot. Mm-hmm. Alors, Monseigneur Bourget réorganise le diocèse de Montréal entre 1840 et 1870. Mm-hmm. Il fait venir de France des communautés religieuses. Il élargit le mandat de certaines d'entre elles, dont les Sœurs Grises et les Hospitalières. Et il va avoir énormément de constructions à cette époque-là. Et on peut dire que Monseigneur Bourget organise pour un siècle l'éducation et la santé à Montréal. Donc, c'est vraiment lui, avec les communautés religieuses, qui va vraiment organiser l'éducation et la santé aussi. Donc, c'est une période charnière et ça va rester jusqu'à la Révolution tranquille, où là, il va y avoir l'étatisation des soins de santé et d'éducation. Mais avant ça, c'est beaucoup, beaucoup Monseigneur Bourget qui l'organise. Alors, c'est une expo importante, non seulement au niveau du patrimoine parce qu'il y a des plans fantastiques de l'Hôtel Dieu, des plans de Victor Bourgeot, mais les Sœurs Grises nous ont prêté des plans inédits qu'on a fait restaurer. Donc, c'est la première fois que c'est présenté au public. Les Sœurs de la Providence nous en ont prêté. La Fabrique Notre-Dame nous a prêté des dessins incroyables du mobilier dessiné par Bourgeot, parce que c'est une chose qu'on connaît moins. Bourgeot, comme ancien menuisier, était capable de faire des décors intérieurs, et c'est ce qu'on retrouve dans l'exposition. Il y a tout un volet où on voit l'intérieur de l'église La Prairie, la Fabrique Notre-Dame. Alors, c'est vraiment des choses fantastiques. C'est le Centre canadien d'architecture qui a les plans de la fabrique en dépôt. Alors, beaucoup d'institutions muséales, BANQ nous en a prêté. On a les plans de la cathédrale de Trois-Rivières, les plans originaux, qui est de style néo-gothique, fait par Bourgeot également. Donc,
pardonnez-moi, Paul Labonne, vous parlez d'un musée qui est aussi grand que le Louvre. Vous faites un catalogue absolument immense. La visite dure combien de temps? 4 heures? 5 heures?
Juste pour les gens qui ont vu le musée il y a plusieurs années, juste leur dire, on a interchangé les espaces d'exposition. Fait que l'expo temporaire se déploie maintenant dans un espace beaucoup plus grand, ce qui nous a permis de faire l'expo. Parce qu'avant, on avait une toute petite salle d'expo temporaire. Ouais. Et là, on l'a mis dans un quart du musée à peu près. Mais il y a beaucoup de stock. C'est sûr que si vous venez, vous allez voir, il y a énormément de matériel. On a même acheté une photo de Montréal où on voit l'Hôtel Dieu en 1875 acheté en Grèce. Alors, quand on fait des nouvelles expos comme ça, ben, on en profite pour acquérir des nouvelles œuvres également, dont une photo fantastique. Puis on voit la rue Sainte-Famille, parce que c'est les sœurs qui vont développer la rue Sainte-Famille, qui vont la lotir. Et avec le lotissement, ben, elles vont financer l'Hôtel Dieu. Alors, il faut comprendre que l'Hôtel Dieu en 1861 sert à structurer l'espace du Mile End. On l'appelle pas encore comme ça, mais ça va devenir le Mile End, puis ça va aider à structurer le plateau Mont-Royal. Donc, c'est pas juste un Hôtel Dieu, c'est un Hôtel Dieu très proactif qui permet le développement de tout un quartier. Et la chapelle était ouverte aux fidèles de l'extérieur. Donc, c'était pas juste pour les sœurs. Les sœurs étaient dans leur monastère. Ils avaient un cœur qui communiquait avec la chapelle, donc elles pouvaient le voir même si elles étaient cloîtrées. Il y avait l'autre partie qui était l'hôpital, donc les malades pouvaient assister à la messe parce qu'ils étaient dans l'autre transept. Et la grande partie arrière, ben, c'était la chapelle qui était destinée aux fidèles des paroisses avoisinantes, et les subsiens ont donné des sous pour la construction de la chapelle parce que ils n'avaient pas encore créé les paroisses, donc la chapelle servait de chapelle paroissiale.
Paul Labonne, excusez-moi, je rappelle que vous êtes donc directeur du musée des hospitalières de l'Hôtel Dieu de Montréal, qui vient de rouvrir avec une exposition temporaire sur Victor Bourgeot, grand architecte du 19e siècle à Montréal. Vous parlez aussi de tout ce qui est en permanence là-bas. Comme on a peu de temps, on a 3-4 minutes qui nous restent, est-ce qu'il y a autre chose à voir? Bon, vous parlez de tout ce qu'on peut. On peut voir la chapelle, on peut voir beaucoup de parties, on peut même voir les jardins l'été, non?
Oui, il y a des visites commentées là actuellement à cause des mesures sanitaires, on peut pas. Ouais. Mais oui, effectivement, dès que ça va être disponible, on va pouvoir le faire. On a des circuits Victor Bourgeot qui vont vous emmener dans des lieux in situ également. Mm-hmm. Donc ça va avoir lieu cet été. Et sinon, dans l'expo permanente, vous allez avoir la Fondation de Montréal, évidemment, grâce à Jeanne Mance, et évidemment, je vais mettre une maison neuve, mais vous allez avoir une section sur la vie des hospitalières, donc une partie sur une reconstitution du monastère, donc comment les sœurs vivaient, et il y a une partie médicale très importante, puisque l'Hôtel Dieu est d'abord un hôpital, donc on explique un peu la lutte entre l'école de chirurgie et de médecine de Montréal avec l'Université Laval à Montréal. Donc, il y a eu quelques chicanes de clocher pour la création de la première faculté de médecine à Montréal. Mm-hmm. Mais tout ça va aboutir sur la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Donc, ben, c'est ça qu'on découvre à partir de 1847. Donc, il y a eu l'école.
Paul Labonne, pour il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer, il y a des enfants par exemple qui pourraient être, qu'on voudrait intéresser à l'histoire de Montréal. Est-ce que vous avez des programmes scolaires? Avez-vous des trucs virtuels? Est-ce qu'on peut visiter votre musée sur Internet ou pas?
Absolument. On offre maintenant des programmes virtuels à l'échelle du Québec, ce qui est fabuleux. On a eu des groupes de l'Est du Québec. Le virtuel n'est pas que négatif, au contraire. Cela dit, si pendant la semaine de relâche, les enfants ont du temps, ben, ils peuvent aller sur notre site web, Musée des Hospitalières, et il y a des programmes éducatifs que les enfants peuvent faire. Il y a toutes nos coordonnées également si les écoles veulent participer. On en a primaire, secondaire, collégial, et on offre des programmes scolaires pour les soins infirmiers. Alors, parce que vous savez que les sœurs avaient leur propre école d'infirmières à partir de 1901, donc on travaille beaucoup avec le secteur, entre autres avec l'Ordre des infirmières, et puis avec la formation en soins infirmiers, collégial et universitaire. Donc, les infirmières ont été très importantes à l'Hôtel Dieu, très importantes.
Effectivement, oui. Vous êtes au 201 Avenue des Pins Ouest, ça c'est le 144 arrête là. Il y a aussi sur le 55 sur Saint-Laurent, le 80 sur Duparc, si on veut marcher un peu, métro McGill, métro Place des Arts. Et le prix pour rentrer, avez-vous ça en tête ou pas, Paul Labonne?
Écoutez, c'est assez simple, c'est 10 $ pour les adultes et 8 $ pour les aînés et les étudiants. Et pour les gens qui seraient un peu serrés financièrement, tous les premiers dimanches de chaque mois, nous offrons la gratuité. C'est une mesure en lien avec le ministère de la Culture. Donc, tous les dimanches de chaque mois, c'est gratuit. Donc, si jamais vous voulez venir en famille, une petite sortie familiale pas trop chère, vous pouvez venir nous voir. Ça nous fera plaisir. Et on est ouvert du mardi au dimanche, de 10 h à midi et de 13 h à 17 h.
Tout ça, on peut le voir sur www.museedeshospitalières.qc.ca. Paul Labonne, directeur général du Musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Vous nous parliez de la réouverture du musée en temps de pandémie. Merci beaucoup, bon courage à vous, bonne continuation, puis à une prochaine exposition.
Merci pour l'invitation.
Allez, au revoir.
Au revoir.
Voilà, c'est la fin de l'émission. À la régie, Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier qui vous dit merci et vous invite entre-temps à rester à l'antenne de Radio VM.